Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir s'il est possible de se soigner avec des virus. Alors les virus, on tend à s'en méfier, c'est vrai. À leur simple évocation, les Français adoptent volontiers masque FFP2, gel hydroalcoolique et distanciation sociale. La faute en partie aux derniers événements bien sûr qui ont accru la méfiance générale contre les épidémies. Mais et si pour changer, les virus se mettaient à notre service et contribuaient à nous soigner? Oui. D'abord, sachez que l'idée ne date pas d'hier. Populaire au début du XXe siècle, puis oubliée après le succès des antibiotiques, la phagothérapie revient peu à peu sur la scène médicale. Et il faut le dire, elle dispose de certains atouts par rapport aux antibiotiques. Mais sa mise en œuvre n'est malheureusement pas forcément si simple. Alors en quoi consiste exactement cette phagothérapie? Bien d'abord, sachez que c'est le biologiste français Félix Derael qui découvre, après moult expériences, son principe. Il parvient en effet à guérir de la dysenterie des populations infectées en leur injectant un virus capable d'éliminer les bacilles dysentériques. Et le taux de réussite est flagrant, sur les 10 000 premiers cas, seul un patient ne répond pas au traitement. Concrètement, la phagothérapie consiste à injecter dans l'organisme d'une personne infectée par une bactérie un virus capable de détruire ladite bactérie. Alors les virus bactériophages lytiques, appelés plus simplement phages, ne représentent aucun danger pour l'homme puisqu'ils ne s'attaquent qu'aux bactéries. Mais pour obtenir des virus en quantité suffisante à la guérison, il faut d'abord prélever les bactéries responsables de l'infection et les mettre en contact avec différents phages en laboratoire. Là, le phage capable d'infecter la bactérie va se multiplier à l'intérieur de cette dernière. Et à la mort de la bactérie, les phages vont se répandre dans le milieu de culture. Ils seront donc plus nombreux que les autres virus et pourront être récupérés pour être introduits dans l'organisme du patient. Mais alors, pourquoi la phagothérapie intéresse-t-elle à nouveau les médecins ? Eh bien, la découverte des antibiotiques a révolutionné, c'est vrai, la médecine en permettant le traitement rapide et généralisé de populations atteintes d'infections. Cependant, vous le savez certainement, l'usage trop vaste de l'antibiothérapie a entraîné le développement de bactéries plus résistantes, contre lesquelles il devient difficile de trouver un remède précis. Au contraire, les virus phages sont très nombreux. Il y en a donc toujours une sorte capable d'éradiquer une bactérie, même si celle-ci a muté. Mais y a-t-il tout de même des contraintes de la phagothérapie ? Bien, si ce type de traitement peine à s'installer en France, c'est parce qu'il est réalisé sur mesure. Or, prescrire une phagothérapie individualisée est à la fois complexe, puisqu'il faut mener les expériences permettant de définir le bon phage à utiliser, et contraignant, puisque la réglementation impose la vérification de l'innocuité et de la qualité de chaque traitement. Sachez enfin que les recherches sur le sujet sont en plein essor en ce moment. L'INSERM a notamment obtenu un financement conséquent pour créer une base de données de phages. Et une équipe de chercheurs de Montpellier met en place un système permettant de tester l'efficacité des phages sur chaque bactérie. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, mais je vous retiens encore quelques secondes, car j'aimerais vous rappeler l'existence du podcast Dodo, son de la nature. Oui, un podcast qui vous permet tous les jours de vous endormir plus facilement, ou simplement de vous relaxer. Comment ? Eh bien en écoutant des sons, comme pour prendre les derniers épisodes que j'ai publiés, des chants d'oiseaux dans une forêt après une averse, une cascade, l'activité volcanique, ou encore le ronronnement d'un chat un jour de pluie. Quelques exemples parmi bien d'autres. Voilà, si cela vous tente, je mets tous les liens vers ce podcast dans les notes de cet épisode. Merci et bonne écoute.